There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean.
Nous voici avec vous pour une nouvelle émission des livres pour dire, émission de l'AISBL Scripta Linea, en français collectif d'écrit, qui va coller tout près de son titre. Nous allons en effet parler aujourd'hui de ce dire qui est un des aboutissements d'un parcours d'écriture, de cette parole collective déposée, proclamée, chuchotée, dialoguée selon les contextes et les collectifs d'écrit, sur scène, dans la rue, sur des murs ou sur des ondes. Ce soir, autour de la table, nous accueillons Donatienne Bossu, Isabelle De Vrindt, Tamara Frunza, qui s'occupe aussi de la technique, Yves Marchal, Sylvie Vranks et au micro Sophie Cauderlier pour vous servir. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Isabelle, je propose que tu nous expliques pourquoi ce dire est si important dans un parcours d'écriture.
Oui, alors effectivement, disons que le dire en lui-même n'est pas forcément essentiel. Il ne faut pas se stresser par rapport au fait qu'on va faire une présentation publique avec une lecture ou une performance à la fin. Mais en tout cas, on envisage un parcours d'écriture avec une ouverture dans l'espace public. Parce que d'une certaine manière, on invite l'espace public au sein du collectif dès le début, puisqu'on choisit un thème de société. Donc on choisit un sujet qui, pour nous, est actuel, est interpellant et va pouvoir nous animer et nous nourrir à la fois dans nos réflexions et aussi dans notre écriture. Et à la fin, finalement, en fait, ce n'est que justice, finalement, de rendre ça aussi à l'extérieur du groupe et donc d'interpeller aussi les autres, les citoyens, le public. Alors, ça peut être effectivement un citoyen qui est là en présentiel, directement présent dans une salle de spectacle, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi la radio, par exemple. Et ça, c'est en tout cas, c'est ce que nous proposons dans les collectifs d'écrit, une mise en ligne aussi des textes. Et dans ce sens-là aussi, il y a une diffusion, une présentation des textes. Mais ce qui est intéressant dans la présentation publique en présentiel, comme je le disais tout à l'heure, c'est en particulier l'aspect après dialoguer qui peut être vraiment intéressant, où finalement les textes entrent en résonance avec le public, avec les spectateurs, et puis après les spectateurs peuvent réagir et échanger autour des textes et aussi du thème. Et aussi, pourquoi pas, du fonctionnement d'un collectif d'écrit. Mais enfin, voilà.
Tu disais que ça ne doit pas bloquer les gens, ça ne doit pas les stresser, oui. de se dire qu'il y aura un passage sur scène ou en tout cas public. Et donc, une lecture publique est-elle réellement un passage obligé pour un collectif ?
Mais voilà, non. Effectivement, en fait, à un certain moment du parcours d'écriture, ben, on va se questionner sur la manière dont on va diffuser nos textes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, l'ensemble du collectif d'écrit réfléchit, exprime ses limites, ses envies aussi. Et puis, en fonction des envies et des limites de chacun et du groupe, eh bien, on va élaborer un mode de diffusion et en fonction aussi du cadre dans lequel on est. Enfin, voilà, parfois, il y a un cadre, par exemple, budgétaire, il y a un cadre temporel, il y a un cadre aussi lié à la météo. Et donc, tout cela va déterminer, finalement, une modalité de présentation publique qui va vraiment différer, à la limite, d'un parcours d'écriture à l'autre, pas seulement d'un collectif d'écrit à l'autre.
C'est aussi une décision collective, quoi.
Oui,
c'est le groupe
vraiment
qui va,
oui,
aller vers une présentation ou l'autre, une, voilà, modalité.
Oui, et une décision collective en fonction, je disais, des envies, des limites, des besoins, mais aussi des talents. Et voilà, et aussi des connexions qu'on a avec d'autres autour de soi qui peuvent venir aussi ajouter leur petit grain de création.
Cette présentation, finalement, c'est rendre collectif le collectif.
Oui, voilà, c'est ça. C'est rendre collectif, oui, c'est ouvrir cette collectivité à d'autres. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi d'inviter l'ensemble des gens qui sont là à la présentation publique, mais au-delà aussi, toute personne qui entend parler de ce collectif-là, c'est l'occasion de l'inviter à rejoindre le collectif d'écrit. Oui.
Et donc, en parlant de talent, nous allons écouter une première chanson. On l'écoute et puis on en parle.
Lâché à même le courant, je lui fais face. Comme la course d'une source entre les pierres. Mes souvenirs creusent mes rides ou les effacent. J'ai pour voisin les habitants de la terre entière. Pour feu ouvert, j'ai les chansons qui m'ont bercé. Malgré le poids de mes combats en solitaire, au fond de moi, je sens mon sang réconcilié. S'il y a quelqu'un derrière tout ça, qu'importe le nom qu'on lui donne, et même s'il n'y a personne d'autre que toi et moi, si l'illusion règne en artiste, au grand théâtre de la vie, à tout ce qui fait que j'existe, je dis merci. Je dis merci pour cet instant où tout s'éveille, l'odeur du pain, les fruits en grains, leur goût sucré. Quand l'herbe a faim, d'autres chemins dans les fougères, mêlés de terre et de poussière et d'amitié. Pour l'eau qui coule entre les doigts des paysages, cet or sauvage que l'orage désaltère. C'est pure magie que cette pluie sur ton visage, pris dans l'étoile d'araignée. Derrière tout ça, qu'importe le nom qu'on lui donne, et même s'il n'y a personne d'autre que toi et moi, quand la nature règne en artiste, dans le spectacle de la vie, à tout ce qui fait qu'elle existe, je dis merci. Pour le soleil, quand il éclaire un coin de table, le coup de fil du verre à soie au peuplier, la clé des chansons que le vent fredonne au sable, la pomme que le peintre peut enfin croquer, pour un sourire cueillir même la nuit noire, pour le faire part de la naissance d'un mot doux sur toutes les forêts des bras de ma mémoire, l'encre brûlante de mes rêves les plus fous. S'il y a quelqu'un derrière tout ça, qu'importe le nom qu'on lui donne, et même s'il n'y a que toi et moi, si l'émotion règne en artiste, quand le spectacle se poursuit, à ceux qui font que j'y existe, je dis merci. L'écho des contes, les musiques et les secondes, comme d'une ombre, rien ne sombre que le vent, la peau tendue, les arbres nus que je rencontre, trouvent leur force dans l'écorce des passants. C'est une cascade d'émotions qui se rejoignent. Un réseau dense de présence fusille mon corps. L'instant précis où c'est la vie qui m'accompagne, comme une amie dans l'eau tranquille de la mort. S'il y a quelqu'un derrière tout ça, et même s'il n'y a que toi et moi, au moment de quitter la piste, quand le spectacle se finit, à tous ceux qui ont fait qu'il existe, je dis merci. Au moment de quitter la piste, quand le spectacle est bien fini, à vous qui faites que j'existe, je dis merci.
Celui qu'on entend, Yves, c'est toi ? Dans une chanson « Je dis merci » que tu as écrite.
Oui, 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 paroles et musique. Oui, oui, je ne sais pas. C'est différent, c'est très différent d'un travail. Ça, c'est plutôt un travail solitaire. Mon écriture, c'est plus un travail solitaire. Donc, travail de collectif, j'ai plutôt travaillé, mais comme animateur, disons, pendant des années. Mais ça, c'est un travail. Mais voilà, c'est une écriture. Ça a pris du temps, puis... puis c'est devenu un disque, quoi.
Et voilà. Tu as écrit cette chanson-là et d'autres à quel moment?
Mais j'écris tout le temps, en fait. Hein, donc, mais c'est un processus qui est personnellement qui est très très lent. Cette chanson-là, j'ai mis à peu près 4 ans et demi à écrire le texte. Et la musique m'est venue en tête que plus de 10 ans après. Au départ, je pensais que c'était un texte qui n'avait pas besoin de musique pour tenir debout. Et puis un jour, cette musique m'est venue. Et donc, je l'ai finalisée, quoi. Mais c'est un travail très différent de ce que j'entends et de l'expérience que j'ai partagée avec Isabelle, qui est de plus une écriture collective. C'est tout à fait différent, quoi.
Et alors, quel est le rapport, justement, de cette chanson ou de ton travail avec les collectifs d'écrit?
Mais le rapport, c'est d'abord Isabelle qui m'a invité. Elle m'a parlé régulièrement de son travail et je régulièrement dit que de toute façon, c'est le jour où elle aurait besoin de moi, je serai présent. Donc voilà, puis un jour, elle m'a appelé et j'étais là. Donc,
oui, alors mais j'étais la charnière, en fait, entre toi, effectivement, et alors le collectif, un des collectifs d'écrit, le collectif de la diversité à la créativité. En fait, dans ce collectif-là, c'est un collectif qui avait choisi le thème du rapport de l'homme à la nature et qui a réalisé une compilation de textes qui s'appelle « Course à l'envers »,« Vlamen de nature ». Il y a même une traduction vers le néerlandais. Et donc, voilà, c'est une compilation qui avait été écrite la même année que la COP21, même si voilà, on avait choisi le thème avant la COP21, mais enfin voilà, on est là en plein COP23 et donc on avait vraiment un peu l'impression d'une course à l'envers. Et au niveau de la présentation publique, on avait envie de choisir des chansons, enfin d'essayer de trouver quelque chose qui vienne en écho à nos textes. Et on avait écouté plusieurs chansons. Et alors, c'est vrai que moi, j'avais amené le CD d'Yves Marshall. Et donc, en fait, en collectif, on a décidé de proposer, de demander à Yves s'il était prêt à être là et à jouer pour nous, entre les textes. Alors en fait tu as accepté d'abord, donc on a été très reconnaissante, on t'a dit merci. Et puis on a fait honneur à cette chanson là puisque on lui a donné la place pour clôturer finalement la présentation publique. Alors c'était, si je me souviens bien, à la bibliothèque néerlandophone, hein, de Boekenmolen, mais aussi à Proforal, hein, dans les locaux.
On l'a joué plusieurs fois, oui.
Oui, plusieurs fois.
Ouais. À Molenbeek, donc.
À Molenbeek.
Mmh. Oui.
Et
en fait, c'est une expérience nouvelle dans le cadre, dans le cadre précis, mais comme j'ai été enseignant, et notamment d'art dramatique pendant plus de 20 ans, et j'ai animé énormément d'ateliers, et certains aboutissaient à des présentations publiques. Donc, je l'ai vécu de plusieurs niveaux. Et pour moi, c'est important j'ai toujours trouvé important qu'il y ait une finalité, mais pas spécialement une finalité publique. Dans certains cas, avec certains groupes que j'ai animés, on a fait une sorte de petit livre qu'on a distribué aux gens autour, reconnaissance et tout, qui était une sorte de, c'était une autre reconnaissance, une autre finalité, c'est de faire un livre. Mais je crois que c'est important de se donner l'écriture. Je trouve que ça demande un courage et un respect énorme, notamment pour les personnes qui ont travaillé avec Isabelle. Aussi modestes que soient les textes, j'essaie d'expérience la difficulté que c'est de le faire et d'affronter un public pour le... Et donc ça mérite un respect, mais c'est une dynamique, la projection publique, c'est une dynamique, c'est un projet qu'on lance, on va plus loin que le texte, et ça me paraît vraiment très important. Et d'être important, d'être là pour accompagner, et c'est pour ça que quand elle m'a appelé, pour moi c'était évident, j'étais d'accord pour aider, quoi.
Et qu'as-tu retiré de cette nouvelle expérience-là, puisque donc tu avais déjà participé à d'autres projets avec des élèves ou etc. Mais quelque part ici, tu étais invité, tu devais pas te soucier de toute l'organisation. C'était peut-être vraiment un autre vécu.
C'était assez reposant, je dois dire, oui, par rapport à Isabelle. Mais oui, puis c'était intéressant de voir la grosse majorité, quand même, c'était des gens d'une culture qui n'est pas la mienne, qui est des cultures plutôt maghrébines. Et ce rapport au texte et cette façon de... C'est une découverte pour moi, même si on baigne et on est régulièrement entouré par cette réalité. Moi, je dis, ce respect, cette admiration que j'ai pour ces personnes, c'est notamment pour ces femmes maghrébines. Et quand on parle d'expérience, moi, j'ai surtout une expérience avec des enfants et des ados. Ici, c'est des personnes adultes, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait... Mais la demande est la même et la finalité est la même.
Et Isabelle et Tamara, d'ailleurs aussi, vous avez présenté d'autres compilations, bien sûr. Et comment vous vous y êtes prise? Avez-vous également collaboré avec d'autres musiciens, compositeurs, interprètes, Tamara?
Mais voilà, je me suis pris. C'était comme une surprise, en fait, ces rencontres. Et pour moi, enfin, chaque moment, c'était une surprise, en fait. Mais je trouve vraiment intéressant de développer enfin, une expérience dans ce domaine des échanges des collectives littéraires.
Oui. Moi, je me souviens qu'on avait pour parchemin, donc c'était le thème de la mémoire et de la transmission. Mmh. Et donc ça, c'était le collectif des Allumés de la Plume. Et... en fait, c'était un coup de hasard, là. On avait, en fait, présenté les collectifs d'écrit de manière générale dans un forum, le Bruxelles Creative Forum. Et alors, il y avait une artiste, une photographe, oui, qui présentait ses photos.
Oui, ça, c'était vraiment une surprise pour nous parce que, vraiment, elle nous a bien pris un objectif et on a eu de bons souvenirs. Mais
en fait, cette photographe, elle présentait des photos qui proposaient une réflexion sur la trace. Elle avait des photos du forum de Rome et des photos en noir et blanc. Enfin voilà, il y avait cette réflexion aussi sur la trace, la mémoire dans les pierres. Et donc, on lui a proposé de faire une exposition de ces photos.
Oui, je me souviens.
C'était au Centre culturel Jacques-Franc.
Jacques-Franc, oui, c'est ça.
Et donc, en fait, elle a
participé vraiment assidûment pour pouvoir nous présenter, nous faire une belle image.
Oui, et puis elle a vraiment aussi amené son regard, c'est le cas de le dire, d'artiste sur la question de la trace de la mémoire et puis aussi sur nos textes. Donc c'était intéressant vraiment d'avoir ce dialogue avec l'artiste. Bon, et alors dans ce collectif de Molenbeek, de la diversité à la créativité, on a aussi dialogué avec un violoncelliste au bain de Nimal. Et là, c'était différent, c'est-à-dire que il a vraiment été recherché à partir de nos textes des morceaux de musique classique ou contemporaine qui venaient en écho, en réponse. Et donc, on a vraiment construit, là, c'était la compilation, il faut que je réfléchisse un petit peu, sur quelle compilation est-ce que c'était ? Oui, aussi à Molenbeek.
Je crois que je n'y étais pas.
Et donc, en fait, je me demande si c'était pas... Oui, voilà, excuse-moi, c'est ça qui fait confusion. C'est qu'on a présenté une troisième fois Course à l'envers, cette fois-ci à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, et donc avec Aubin de Nimal. Et donc, il a fait ce travail, lui, d'aller chercher ses morceaux au violoncelle. Et ce dialogue était vraiment très intéressant, très riche. Et ce qu'il disait, c'était que ce rapport au public changeait pour lui, parce qu'il a l'habitude de faire des concerts, donc aussi avec un public rompu à l'exercice. Et ici, il y avait vraiment à la fois une attention vis-à-vis des écrivantes, à essayer d'être vraiment en phase par rapport à aux émotions qui ressortaient des textes, mais aussi il y avait une forme de dialogue, de proximité finalement avec le public qu'il ne vivait pas d'habitude dans ses concerts. Mmh. Donc voilà. Voilà quelques exemples, hein. Il y en a encore d'autres.
Et toi, Donatienne, à quelle présentation as-tu pu assister ?
Moi, j'ai assisté à la présentation publique à la Maison du Livre. Je ne peux pas dire de bêtises, ça fait au moins 2 ou 3 ans.
Ça fait donc 5 ans.
Ah, voilà, je n'osais pas le dire, mais en tout cas, j'ai encore un très beau souvenir parce que là, voilà, la Maison du Livre propose un très bel espace déjà. Mmh. Et je me souviens que les lecteurs, mais j'ai envie de dire aussi acteurs, étaient sur 2 niveaux et se répondaient par des lectures. C'était presque une pièce de théâtre. Enfin, c'était très beau à écouter et à vivre. En tout cas, donc d'une part, le travail des écrivains, hein, d'une part, d'autre part, dans cet espace, c'était très, très beau. Voilà. Et j'ai un souvenir récent. C'est pour ça que j'ose dire 2 à 3 ans, mais ça fait plus longtemps.
Ah, voilà. Ça t'a marqué. Et là, c'était, tu te souviens du thème, alors? Enfin, ou du titre?
Alors là, je me souviens très bien du texte qu'une Sylvie a lu, mais malheureusement, non, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens pas du titre.
Alors voilà, le titre c'était Poésie urbaine, et ce texte que Sylvie a lu, je pense que c'était le sien, qu'elle a entre-temps mis justement en scène. Puisque voilà, elle a aussi ces talents-là de metteuse en scène, et donc qu'elle a présenté l'année passée, et je crois qu'elle va encore présenter. Mais donc voilà, c'est vrai que ça a voyagé.
Et du point de vue du public, qu'est-ce qui motive à se rendre à de telles présentations publiques, à de telles soirées festives, de présentation d'un recueil de textes d'un collectif d'écrits? Pourquoi est-ce qu'on y va?
Je crois qu'on y a toujours des petites affinités. Dans mon cas, j'ai participé à des ateliers de théâtre amateur, et d'autre part, j'aime participer à des travaux d'écriture ou j'ose dire des ateliers d'écriture. Mais il y a la rencontre, la découverte. Il est vrai que le lieu ou l'espace public joue aussi, voilà, dans la décision j'y vais ou j'y vais pas, parce qu'on a parfois à Bruxelles beaucoup de propositions culturelles. Mmh. En ce moment, c'est le cas, par
exemple. L'offre est très vaste.
Et il faut choisir, ce n'est pas toujours facile, mais j'avais envie de... C'est parce qu'on parle de bibliothèque et d'espace public, j'ai envie de demander c'est quoi un espace public, parce que j'ai l'impression, moi dans mon cas, c'est bon que j'ai fait un peu de théâtre amateur, donc je ne suis pas trop effrayée, en tout cas par le fait d'aller présenter un texte dans un espace public, mais c'est quand même bon de répéter qu'est-ce qu'on entend par espace public, en fait.
Ce serait un espace ouvert où les gens qui passent puissent s'arrêter. Est-ce que ça veut dire que on doit y aller si on y est invité? Est-ce que ça dénote quelque chose de contraire au privé, le public? Est-ce que
un espace public, moi j'ai toujours l'impression qu'il doit y avoir une notion de convivialité, il faut quand même qu'il y ait une espèce de petite, pas une de bulle, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un espace qui invite de manière chaleureuse les personnes à s'arrêter et à écouter. Mais l'espace public, ce n'est pas nécessairement un lieu fermé. Moi, je pense à des marchés. On peut très bien faire des présentations, mais il y a des tas d'autres endroits ou moments dans la rue, si on peut dire, pour présenter des textes, mais ça, je vais plutôt laisser Isabelle intervenir.
Oui, ben disons que c'est vrai que pour nous, enfin, on utilise le terme espace public pour dire qu'effectivement il y a cette collectivisation des textes, cette ouverture, et bon, on tient particulièrement à rendre gratuit. Toute présentation publique, ça c'est pour nous quelque chose d'important, et voilà, donc disons que ça devient finalement, on pourrait dire aussi qu'il y a l'espace public virtuel, quoi. On dépose cette compilation dans sur le net, elle est téléchargeable gratuitement également, et donc on la remet, on la rend à l'espace public pour que celui-ci s'en empare de la manière qu'il veut. Mais maintenant, c'est vrai qu'on en a parlé à une précédente émission. On a été, par exemple, avec le collectif de nouveau, le collectif de Molenbeek de la diversité à la créativité, on est allé dans la rue faire une lecture nomade, et donc là on s'est invité sur des bancs publics. Ceci dit, on l'a fait parce qu'on a interrogé un autre collectif, le collectif Les Écrits Libres Instables, qui est situé à Paris et qui avait fait cette première expérience là. Donc en fait, ce sont des espaces qui en tout cas sont ouverts, sont accessibles, et où parfois nous-mêmes nous invitons sans forcément être attendu, c'est intéressant aussi.
On pourrait dire aussi que c'est l'espace du public.
Oui, exactement. C'est l'espace qui est partagé par d'autres, qui appartient pas uniquement à un groupe, mais qui va appartenir à voilà, à la cité pour moi. Enfin voilà, même s'il y a aussi des collectifs qui se situent dans la campagne, hein. Donc c'est pas forcément lié à la ville, mais quand même principalement.
Voilà, donc on a déjà parlé hein, du fait de la diffusion des écrits qui était quelque chose de un peu qui coulait de source, qui était présupposé quand on commençait un collectif d'écrits, que cette diffusion pouvait être sous forme de spectacle, de lecture, de dialogue avec des musiciens, etc. Mais donc cet aspect de diffusion, de sortie de l'espace privé vers l'espace public est clair et est naturellement apparu.
Disons que en tout cas c'est le postulat, c'est un des fondements de Skeptalinéa et des collectifs d'écrit, de s'ouvrir dans l'espace public, et voilà, la palette est très large. Maintenant, si par exemple un écrivain a écrit son texte et puis décide que ça fait trop partie de sa sphère privée, qu'il n'a pas envie de le rendre public, il en a évidemment le droit. Il est tout à fait voilà.
Il n'a pas d'obligation.
Propriétaire de son texte, il n'y a pas d'obligation. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours questionner si effectivement on fait quelque chose de particulier par rapport à cette présentation publique. Mais en général, les personnes sont assez partantes. Maintenant, c'est vrai que ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation, ça demande voilà, d'autres choses que simplement écrire. Et parfois, ça peut être désarçonnant pour certains. Voilà, il y a aussi la possibilité d'alors s'impliquer de manière plus ou moins importante dans cette phase du parcours, en tout cas. Mais c'est important de continuer à le porter ensemble. Et donc, si, par exemple, le collectif n'est pas prêt du tout à le faire, on ne va pas le faire. Donc, voilà, il y a vraiment cette chose à négocier. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on est écrivant qu'on a envie de dire dans l'espace public son propre texte, par exemple. C'est pas forcément évident. Et donc, il va jamais y avoir d'obligation là non plus. On peut se soutenir et lire les textes d'autres. On peut aussi faire appel à des personnes extérieures pour lire nos textes. C'est déjà arrivé. Enfin, tout est possible.
J'ai un souvenir de présentation publique sur une péniche,
oui,
où j'ai eu le plaisir et la chance, l'honneur de lire un texte qui n'était pas le mien.
C'est vrai.
Mais j'ai pu lire un texte et c'était très, très chouette comme expérience.
Oui, oui.
Et je dirais, en vous écoutant, en vous entendant, j'ai l'impression aussi que à travers ces présentations publiques qui voyagent de lieu public en lieu public, vous faites connaître aussi ces lieux qui sont publics, donc que tout le monde peut connaître, mais finalement que tout le monde ne connaît pas.
Mm-hmm.
Et que de passer de lieu en lieu, ça les fait connaître. Donc ça met en réseau. J'ai l'impression d'une énorme toile comme ça qui se tisse, qui commence à se tisser,
mm-hmm,
grâce au collectif d'écrit finalement.
Oui, c'est une des volontés, hein, c'est de renforcer ces liens entre les associations, entre les gens qui participent à un parcours d'écriture, et puis aussi, oui, ce qui peut être aussi intéressant, c'est vraiment de s'inviter aussi dans un lieu où il y a un public, et donc où finalement ils auraient vu l'invitation. Ils ne seraient peut-être pas venus, mais du coup, voilà, comme on s'invite dans ce public-là où on est invité par un partenariat, eh bien, voilà, c'est l'occasion aussi d'ouvrir ces collectifs d'écrit à des personnes qui ne le connaîtraient pas du tout. Je pense notamment à Proforal, là, c'est à la limite, hein, de l'espace public et privé, mais disons qu'ils avaient décidé d'ouvrir l'espace public. L'espace privé au public, et donc pour la présentation par exemple du tout premier de la toute première compilation, c'était en fait un groupe de Proforal qui l'avait élaboré, et donc ils avaient vraiment décoré de manière très très chaude, chaleureuse, leur réfectoire, et ils avaient présenté ça vraiment dans Proforal. Et puis après, on a un peu continué, on s'est invité, et c'était aussi l'occasion voilà, de garder ce lien aussi avec cette association-là, et du coup d'inviter aussi les participants à des formations à nous rejoindre. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est important. Enfin, voilà, il y a aussi la bibliothèque d'Ixelles, hein, peut-être que Sylvie peut en parler.
Oui, tout à fait. Pour moi, il y a vraiment un idéal de culture pour tous et pour toutes. On est vraiment tout à fait à l'opposé d'une idée de la culture comme tour d'ivoire avec un droit d'entrée et donc des exclus. Et je trouve que le fait que donc la gratuité est un élément important de la convivialité, parce que justement, voilà, tout le monde peut pousser la porte, on entre, on est chez soi, quelque part. Et c'est une vision tout à fait vivante de la culture, elle respire. Comme je disais, il n'y a pas d'exclus, elle appartient à tout le monde, elle est là, au milieu, et elle n'est pas statique. Et donc, moi, j'avais assisté à la présentation, au lancement du recueil des sept mercelaires Intelligence, au pluriel, en 2016. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que le lancement était intégré dans une soirée micro-ouvert.
Ouais.
Et donc, il y avait véritablement un dialogue entre des membres du public qui montaient sur scène, qui chantaient, qui faisaient du slam, qui présentaient des poèmes, des sketchs. Et le lancement du recueil lui-même, donc il y avait vraiment de très beaux échos et il y avait une très bonne ambiance, c'était chaleureux, c'était pas hiérarchique du tout. Et j'en ai vraiment un très bon souvenir.
Et donc justement, toi Sylvie, tu as rejoint le collectif d'écrit Les Sept Mercelaires. Que penses-tu de cet axe dans le parcours d'écriture qui fait qu'on s'engage dans l'espace pour présenter son texte? Ou le texte d'un autre?
Eh bien, justement, pour moi, c'est toujours en lien avec le fait que la culture est quelque chose de vivant. Donc ça donne un nouveau souffle au texte, ça le rend plus présent, plus tangible, plus accessible à tout un chacun et toute une chacune. C'est une expérience tout à fait différente de la lecture silencieuse. Il y a une véritable présence sur scène avec des gestes, des pauses, des intonations, une interaction avec le public. Et du point de vue de la personne qui lit, je pense que c'est un très bon exercice qui permet de s'approprier le texte. Pas dans le sens qu'on va le voler, mais dans le sens de vraiment l'habiter et de le faire sien. Même d'ailleurs si on en est l'auteur, je pense, parce que moi je pense vraiment qu'on gagne une autre perspective sur le texte, une nouvelle appréciation. Christine Ancar, qui a fait la formation à la mise en voix, donc qui a organisé la formation à la mise en voix de texte à laquelle j'ai participé, disait que le texte lu à haute voix était un cadeau. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est un cadeau pour soi-même, c'est un cadeau pour le public. Et il y a vraiment un grand respect pour le texte.
Tu as participé à d'autres, tu as assisté à d'autres présentations publiques.
Oui, donc j'ai assisté aussi au lancement de Femmes Sauvages. Ce que je peux dire là-dessus, j'ai une petite anecdote personnelle, c'est que c'était un vendredi soir après un cours que personnellement j'aime bien, mais donc je fais l'agrégation et j'étais un petit peu fatiguée. Et en fait, Femmes Sauvages était organisée dans différentes parties de la bibliothèque d'Ixelles. Et voilà, il fallait se lever, on allait dans différentes parties de la bibliothèque, y compris des endroits que j'avais jamais vus. Et au début, en fait, j'avais pas très envie de me lever parce que j'étais fatiguée. Et puis j'ai été prise dans cette énergie. On a été dans tous les sens. C'était très dynamique, très convivial. C'était vraiment chouette.
Et c'est ça finalement qui t'a décidé à rejoindre le collectif Les Sept Mercelaires?
Oui, c'est une des raisons, effectivement. Comment dire, moi, à la base, j'ai une formation littéraire. J'écris un peu de mon côté. Et j'ai participé à des concours d'écriture. Mais franchement, je n'y trouvais pas mon compte. Parce que je pense qu'une partie, une des raisons, c'est que je n'ai pas l'esprit de compétition. Et dans les collectifs d'écrit, justement, il y a des valeurs très solidaires, vraiment de partage, où on n'est pas justement en compétition, où c'est pas, on risque pas d'être à la gorge les unes des autres. On est là pour avoir des retours positifs, pour se soutenir. Et pour moi, c'est aussi important d'avoir un cadre bien défini dans le temps et dans l'espace. Où je ne suis pas seule de mon côté, justement, sinon je pourrais prendre un temps infini. Et voilà encore une fois où il y a du soutien et de la convivialité.
Mmh. Et tu nous as préparé une lecture, je pense.
Oui, voilà, c'est un extrait de Femmes Sauvages, justement, le deuxième recueil des Sept Mercelaires. Et le texte s'intitule « De la femme sauvage » par Séphora Ben Moussa. Donc je commence. Si nous nous référons à la définition donnée par les deux savants, philologues, philosophes, cosmétologues, sophrologues, post-encyclopédistes, Bouvard et Pécuchet, je cite « La femme sauvage est un être non doté d'un sexe masculin ayant l'apparence d'une femme. Cette sauvageonne portant souvent la culotte, cet être plein de contradictions, a pour particularité d'avoir les plus vils comportements du sexe opposé. » Fin de citation. Que nous apporte-t-il comme précision supplémentaire à l'une des premières définitions modernes du terme? Au XVIIIe, le grand Pangloss, qu'il n'est point nécessaire de vous présenter, parle, je cite, « d'un être à la trompeuse délicate apparence. S'il n'y a point d'effet sans cause, la femme sauvage n'a guère de réelle cause ni même l'effet escompté. » Fin de citation. Jean-Jacques Rousseau, dans sa dernière version du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, traite le sujet de la manière suivante. Même dans l'état de nature, ce genre de créature existe. Elle est aux antipodes du bon sauvage. Cet être féminin au singulier comportement n'est guère d'une nature innocente ou bonne. Elle serait à l'origine de l'émergence de la société. Souvent corrompue, cette femme prône des valeurs irrévérencieuses. Notez que si Rousseau fit publier de son vivant les rêveries d'un promeneur solitaire, le pu précédant sa dernière œuvre posthume expliquait les raisons de sa solitude. Ayant eu affaire à une femme sauvage, le petit Rousseau se retrouva dans l'incapacité de renouer toute relation avec le beau sexe. Bien qu'il fût expert en recherche sur le thème, il fut victime d'une sauvageonne.
Merci. Merci pour ta lecture. Nous parlons maintenant des coulisses. À quelles difficultés est-on confronté quand on prépare une présentation publique de ces textes ? Quels sont les écueils, les difficultés, les montagnes à gravir afin de se retrouver sur les planches et présenter ? Tamara ?
Oui, voilà. Mon sentiment, c'est premièrement, ce sont les émotions qu'il faut être à jour avec, pas avoir le trac. Puis, bon, l'organisation, la fluidité de la communication, quel doit être mon accord entre nous. Faut être bien, bien relax, quoi, et avoir la confiance aussi bien en soi que dans le public, de nous faire écouter, de nous avoir fait entendre nos créations. Mais des difficultés, bon, c'est plutôt par rapport à l'organisation, que ce soit bien, bien réussi et à l'heure et à temps, comme on dit, il faut être à l'heure et à temps.
Oui.
Ça, c'est mon sentiment le plus, et surtout les émotions, ça, c'est très important. Mm-hmm. Ça implique.
Ça, c'est pour le jour même. Et puis alors, quand on élabore le projet, souvent, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme. Et puis, bon, ben voilà, il faut aussi pouvoir cadrer et voir un petit peu ce qui est faisable, finalement, par rapport au temps imparti. Donc là, c'est vrai qu'il y a le côté aussi organisationnel d'essayer de voir, ben voilà, où est-ce qu'on aurait envie de faire cette présentation publique. Donc, il arrive aussi de réfléchir à ça vraiment assez tôt, de façon à justement faire lever tout ce stress aussi de l'organisation. Parce que déjà, voilà, au moment de la présentation publique, on peut avoir du stress. Donc, il n'y a pas besoin d'en plus en rajouter avec...
Bah oui, c'est ça, la marée est haute.
Voilà, voilà. Donc, essayer de rester quand même la tête hors de l'eau.
Et pour toi, Yves, qui est donc chanteur, qui a l'habitude, est-ce que l'arrivée au moment d'un concert, c'est l'évolution naturelle, c'est un moment de plus où tu chantes et tu joues de la musique, est-ce que ça se fait tout naturellement ou c'est aussi une préparation bien particulière ?
Je ne sais pas si le mot naturel convient vraiment, parce que c'est un très gros travail. Il y a une concentration et tout. Pour moi, c'est difficile, le public, dans la mesure où je n'ai ni le caractère. Idéalement, pour un concert, je devrais avoir un endroit, une loge, pour pouvoir me concentrer, faire la préparation. Et en même temps, je dirais même dans les endroits où j'en ai eu, j'étais dans la salle pour accueillir les gens, parce que j'ai plutôt envie d'accueillir les gens et d'être proche de ceux à qui je m'adresserai, plutôt que d'être dans mon coin. Je connais des artistes qui... Ils ne veulent voir absolument personne avant de monter sur scène. Et quand ils montent sur scène, ils ont tellement de lumière qu'ils ne voient personne. Et pour eux, c'est important. Et je trouve ça tout à fait respectable. Et moi, c'est pas possible. J'ai besoin à la limite, les projecteurs de scène, je les supprimerai, moi. Je mettrai la lumière dans la salle. Mais d'un autre côté, il y a quand même un travail de dire naturel. Non, on parlait du trac... Il y a une jeune actrice qui a Sarah Bernard qui avait dit « Moi, madame, je n'ai jamais le trac. » Et elle avait répondu « Vous aurez ça quand vous aurez du talent. » Donc, je crois que c'est le trac, c'est la mesure du respect qu'on a des gens qui viennent. On n'a pas envie de les décevoir, on a envie d'être à la hauteur. Mais c'est vraiment, c'est très, très différent. J'étais très, très différent dans le projet d'Isabelle, par exemple, parce que là, j'étais... C'était un accompagnement, je veux dire, et je trouvais qu'ils étaient même super gentils. C'était pas si brillant que ça, ce que j'ai fait, mais ça correspondait à ce qu'ils attendaient, donc c'est très bien.
Oui, et c'est vrai que, enfin, on parle aujourd'hui beaucoup de performance, hein, pour justement des présentations, des lectures publiques, mais on n'a pas forcément envie d'être dans la performance, donc on se présente avec cette humilité. D'avoir envie de donner voilà ce qu'on peut, ce qu'on a, mais en toute simplicité. Ce que nous renvoie le public, c'est souvent c'était vraiment super, c'était de qualité, etc. Mais et tant mieux, mais ça n'est pas toujours le cas, Et ça n'est pas grave non plus. Enfin, je veux dire, l'important, c'est cet échange et c'est évidemment d'être entendu aussi. L'objectif du collectif d'écrit, c'est aussi de prendre la place et de porter sa parole à l'extérieur dans notre société. Et donc, c'est vrai qu'une des difficultés, c'est parfois dans le dire, dans la prononciation des textes, dans l'expression. Et on peut ne pas être à l'aise parce qu'on voilà, on n'a pas forcément fait du théâtre tous. Hein, donc, c'est pas du tout ça l'objet au départ. Et ouais. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, ben, on va peut-être, en tant que scriptalinéaire, organiser une formation à la lecture à voix haute. Et donc, c'est aussi un moment qui est intéressant parce qu'il permet aussi de rassembler des membres de différents collectifs d'écrit et donc de faire sentir aussi cet aspect du réseau qu'on veut mettre en avant. Et c'est donc cette formation qu'évoquait Sylvie tout à l'heure, une formation qui a été donnée par Christine Ancard et voilà, qui a duré une journée et qui nous a fort inspiré en fait au niveau de toutes ces manières, ces attentions aussi, cette posture finalement du lecteur à voix haute qui est assez particulière. Et
voilà. Ça consistait en quoi cette formation à la lecture à voix haute?
Mais voilà, on était une bonne dizaine à suivre la formation, je crois, Sylvie. Et donc, en fait, on a d'abord exprimé nos attentes et puis on a fait des exercices physiques aussi, de sentir son corps, son propre corps par rapport aux autres, son corps dans l'espace dans lequel on était. On a fait ça à la Roseraie, voilà, encore un espace où on aime bien aller. Et donc, alors après, en fait, on a pris les textes qui avaient été choisis par un petit groupe d'écrivains en perspective de l'événement public vers lequel on va, mobilisation le 25 novembre. Et donc, on avait imprimé une conduite avec ces textes-là qu'on va lire. Bon, tout le monde qui participait à la formation ne va pas forcément lire le 25 novembre, mais voilà, c'était la base. Et donc, chacun a choisi parmi ces textes un texte à lire. Pour la plupart, ce n'était pas leur propre texte, mais voilà, un texte qu'elles aimaient bien. Et donc, on a vraiment travaillé, elle nous a fait travailler de manière fort intelligente, je trouve, sur le souffle, sur la respiration. Et tu as commencé cette émission en chuchotant. Elle nous a fait chuchoter, notamment beaucoup, en fait. Et voilà, elle nous a fait vraiment... Elle nous a éveillés, finalement, à ce qui est juste quand on lit un texte. Mm-hmm. Comment être au plus juste.
Et voilà. Toi, Sylvie, qu'est-ce qui t'a motivée à participer à cette formation ?
Eh bien, déjà, pour moi, c'était le fait d'avoir été traitée comme une membre à part entière de cette mercelaire, vraiment dès le début, parce que techniquement, c'était même avant la première réunion de cette mercelaire, donc je n'avais même pas encore rencontré tout le monde, et donc il y avait un côté vraiment « Ah, bienvenue, viens avec nous, on va faire cette formation », et comment refuser ? Il faudrait vraiment être une personne particulièrement disgracieuse, pour refuser qu'on s'est demandé aussi gentiment et proposer. C'était vraiment une vraie invitation. Et j'avais aussi envie de rencontrer les membres d'autres collectifs. J'étais curieuse, j'avais envie de partager, de voir ce qui se fait ailleurs. Et voilà, et je trouve d'un côté peut-être... Oui, pragmatique, c'est aussi intéressant pour mes activités d'enseignement parce que j'ai cette ambition de recommencer à enseigner. Et voilà, il y a des questions de poser sa voix, de présence sur scène, parce que la classe est comme une scène. Et j'ai cette ambition d'essayer vraiment d'encourager et motiver les élèves, de leur donner le goût de la lecture, le goût de la connaissance, de la culture. C'est un vaste programme. Mmh.
Et donc cette formation a été mise en place par Scriptalinéa, et c'est donc une volonté d'outiller ses membres.
Oui, voilà. Donc on va vers ça, hein, vers l'organisation régulière de journées comme ça. Enfin voilà, qui sont peut-être définies à partir des besoins exprimés par les différents membres, et puis voilà, qui les rassemble autrement que ailleurs que dans l'espace public, parce que ça, on en a eu aussi des événements qui nous rassemblaient tous voilà, face à un public, et c'est intéressant, sans compter les rencontres entre les collectifs d'écrit qui se font aussi de manière privée. Et donc en fait, on avait demandé un subside à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc un subside extraordinaire à l'éducation permanente qui avait été octroyé. Et donc voilà, ça a pu financer cette formation en préparation de la lecture publique du 25 novembre. Mais voilà, en fait, on a fait aussi une demande de fonds à la commune d'Ixelles, qui nous a octroyé aussi un petit peu. Et donc, enfin, là, je dois faire un petit peu l'organisation du budget, mais ces deux subsides ont permis certainement de mettre en place cette formation, qui était là aussi gratuite pour les écrivains. Voilà, c'est vraiment être au service des écrivains qu'on a envie de faire et leur donner accès à un maximum de choses.
Ouais. Et c'est beau de voir que c'est soutenu aussi.
Oui, tout à fait.
Beaucoup d'énergie pour demander ces subsides, mais c'est soutenu.
C'est beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est soutenu et ça fait du bien. Oui, effectivement.
Et Isabelle, tu lèves doucement le voile sur plusieurs présentations qui semblent se préparer, n'est-ce pas ? Alors, qu'en rend-elle de particulier ?
Ah, alors on peut peut-être commencer par celle qui a lieu le 18 novembre, donc c'est ce samedi. Et en fait, le 18 novembre, je vous ai parlé du collectif de la diversité à la créativité. Eh bien, il va présenter pour la troisième fois sa compilation Résistance. Et donc, en fait, cette compilation, elle est composée d'une série de textes écrits par six écrivantes. Et là, on a recontacté une artiste. En fait, on avait, pour cette compilation-là, on a commencé par faire appel à une slameuse, Elisabeth Severino Fernandez, qui a amené ses slams, et voilà, on a tissé ensemble une présentation publique, ça c'était en février. Puis je vous ai parlé de la lecture nomade dans la ville, enfin, dans Molenbeek. Et en fait, là, on s'est dit, ben, ce serait bien d'avoir quelque chose qui nous entraîne de lieu en lieu. Et on a trouvé, pour créer un peu la convivialité dont parlait Donatienne tout à l'heure, on a demandé en fait à une accordéoniste que tu connais d'ailleurs, qu'on a contacté grâce à toi,
Caroline Goffard.
Voilà. Et donc, elle a accepté de nous accompagner un petit peu au pied levé. Voilà. Et elle a vraiment là, elle a entraîné le groupe. C'était vraiment ça, l'idée d'entraîner le groupe qui était venu quand même pour la présentation publique, d'attirer aussi les passants et voilà, les inviter à nous rejoindre. Voilà, c'était quelque chose qui était officiellement ouvert à tous. Voilà. Alors, elle revient, mais cette fois-ci, elle a vraiment pris le temps de faire comme Aubin de Nîmes l'avait fait pour la précédente compilation, c'est d'entrer en dialogue avec les textes. Et donc, voilà, ça va être très, très beau. Ça va être de l'accordéon, du chant aussi. Et ça se passe à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, à nouveau, ce samedi à 11h.
Samedi 18 novembre.
Voilà. Et c'est dans le cadre de la fête des ateliers de la Maison des Cultures, de la fête des ateliers adultes. Donc, l'après-midi, il y a encore d'autres présentations. Voilà.
Et ensuite, le 25 novembre ?
Oui, alors le 25 novembre, il y a vraiment un grand événement qui s'appelle Mobilisation des écrits en Libertad. auxquels vous êtes vraiment invités tous. Et cet événement commence à 19h. Il y a toute une série d'activités qui sont proposées à la carte. On pourra notamment écouter le documentaire radiophonique qui a été réalisé par Pascal Stevens, j'y arriverai, mais aussi voir une exposition, jouer et réfléchir à l'écriture en jeu. Et alors, il y aura cette lecture publique qui brossera un aperçu des 5 années d'écriture des collectifs d'écrit. Et donc, ce sera en français, en néerlandais, en roumain, en espagnol et en portugais. En portugais aussi. Et il y aura des connexions avec le collectif du Brésil, Entre Linhas, et le collectif La Belle Escampette du Lot, donc du sud de la France. Et il y aura aussi une représentation du collectif Équilibres Instables, parce qu'ils viennent, il y a des représentants qui viennent de Paris à cet événement-là. Et là, on a refait appel au Bain du Nimal, quand même. Mm-hmm. et lui a reçu cette conduite, donc cet ensemble d'extraits qui avait été choisi par un groupe d'écrivantes et d'écrivains. Et voilà, il a lui aussi réfléchi à un dialogue entre les textes et sa musique. Et donc voilà.
Est-ce qu'on a le temps d'écouter un petit morceau Voilà. Violoncelle, justement, quelques minutes ou quelques secondes.
Quelques notes, oui,
quelques notes. Alors, Donatienne, Sylvie, Yves et Tamara, vous y serez le 18 et le 25 novembre ?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, je participerai en faisant la lecture en roumain et en français également.
D'accord. Donc, ça promet ?
Oui, il faut s'exercer, évidemment, entraîner.
Bon, donc Isabelle nous a déjà donné quelques infos pratiques, mais pouvez-vous peut-être nous donner des renseignements par rapport à... Enfin, moins qu'on ait tout dit.
Ben non, c'est-à-dire que pour accueillir au mieux le public, les spectateurs, on vous demande en fait de s'inscrire dans un document qui est en ligne. Et donc, si vous allez sur le site des collectifs d'écrit, donc www.collectifdécrit avec S sans accent et sans apostrophe .org, mais vous allez avoir un onglet mobilisation. Donc ça s'écrit M-O-T-S-bilisation, voilà, avec S. Et là, il y a un formulaire en ligne, vous cliquez dessus et ça dure 1 minute maximum pour le compléter. Mais voilà, comme ça, nous, on a un peu une vision de combien de personnes viennent et puis aussi qui vient. Comme ça, on vous accueille au mieux. Voilà.
Et ces événements sont-ils gratuits ?
Oui, oui, oui. Donc c'est gratuit. Et alors, on n'en a pas parlé, mais lors des présentations publiques, quand on a les moyens financiers d'imprimer les compilations, on aime aussi remercier le public pour s'être déplacé, être venu. Pour nous, c'est quand même aussi cadeau. Et donc, en fait, on donne une compilation de textes quand elle est réalisée. Et donc, par exemple, samedi, le 18. Le public va recevoir une compilation de textes de résistance. Le 25 novembre, ce sera vraiment le lancement de ce CD, ce documentaire radiophonique. Donc là, le public pourra aussi recevoir soit un CD ou alors une compilation. Il aura l'occasion de découvrir aussi beaucoup d'autres, enfin toutes les compilations en fait qui ont été réalisées jusqu'à présent. Donc voilà, c'est gratuit et en plus on reçoit plein de chouettes de choses.
Et d'autres choses encore à annoncer?
Disons que on a plusieurs collectifs d'écrit qui accueillent encore des membres. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur ce site collectifdécrit.org et vous allez sur l'onglet collectif d'écrit. Et là, il y a une possibilité de s'inscrire en ligne. C'est le collectif Balades en forêt, à Forêt, le collectif Les Sept Mercelaires à Ixelles, et alors de la diversité à la créativité, celui de Molenbeek. Ces trois collectifs-là redémarrent. Il y a aussi une formation pour toutes les personnes qui auraient envie de lancer un collectif d'écrit ou de mieux comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, il y a une formation qui va se donner à la Maison du Livre les 18 et 19 décembre à Bruxelles. Et là aussi, il y a un onglet formation sur le site et vous pouvez vous y inscrire. Il y a encore quelques places. Moi je voulais justement en profiter pour vraiment remercier aussi bien la Maison du Livre par exemple de nous accueillir pour cette formation, que la Maison de quartier Malibran, toute l'équipe de cette maison de quartier, et puis la commune d'Ixelles. C'est aussi la COCOF, c'est aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, tu disais tout à l'heure, c'est chouette d'avoir des organismes comme ça qui soutiennent ces initiatives, et donc on voudrait vraiment en profiter ici pour les remercier chaleureusement. Il y a aussi pour le CD, il a été réalisé grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'était une très belle aventure. C'était les petites infos supplémentaires.
Et donc, si vous n'avez pas tout enregistré dès que cette émission est terminée, vous pouvez retourner sur votre ordinateur et retrouver toutes ces informations reprises sur le site des collectifs d'écrit. Je rappelle le site www.collectifdécrit au pluriel, sans accent, sans point,
sans rien.org.
Et il nous reste le temps de prendre congé de vous tous, chères auditrices, chers auditeurs, et de vous donner rendez-vous pour la prochaine émission des livres pour dire, qui aura lieu le 21 décembre, le jeudi 21 décembre, de 18 à 19h. Et ce sera le collectif Le Piment qui présentera son parcours d'écriture, et lui s'est penché sur le thème de la santé. Voilà. Merci à tous.
Merci.
Bonne soirée.
Merci. Au revoir.